le grand face-à-face. Thomas Negarov sur France Inter.
Notre objectif, c'est d'atteindre le plein emploi, qui est davantage de Français qui travaillent. Et je le dis ici, mon objectif, c'est pas de m'en prendre à tel individu ou au chômeur. C'est de faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi.
Est-ce que vous allez réduire la durée d'indemnisation ?
Aujourd'hui, vous pouvez être indemnisé au chômage jusqu'à 18 mois.
Donc,
une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
Quelques jours après l'annonce du déficit abyssal de la France, 5,5% du PIB, Gabriel Attal était donc au journal de 20h de TF1 pour annoncer des mesures. Et on a entendu parmi celles-ci un durcissement de l'assurance chômage avec toujours le tabou de la hausse d'impôts. Gilles et Natacha, d'ailleurs vous nous dites souvent ici qu'il n'y a pas de colonne vertébrale du macronisme. Là, on en a une quand même, non, Gilles ?
Ah, il y a une continuité, ça, sans aucun doute, il y a une continuité sur ce sujet-là. Cette émission a été pour l'essentiel une émission de confirmation. Il a esquissé ce que serait sa préférence en étant suffisamment prudent pour laisser le rôle aux partenaires sociaux. Mais on voit qu'il y a une nouvelle réforme de l'assurance chômage centrée sur la diminution de la durée d'indemnisation qui est en route, avec deux questions. La première, c'est sur le contenu même de cette réforme. On voit qu'il y a une sorte de continuité et en même temps de mouvement brownien, puisque c'est la troisième réforme sur l'assurance chômage depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et avec des philosophies qui ne sont pas toujours identiques, puisque la précédente réforme s'appuyait sur l'idée qu'en fonction de la conjoncture, le système devait évoluer. Là, en dépit de l'aggravation de la conjoncture, il y a un durcissement. Deuxième élément sur le contenu, il y a une forme de réflexe pavlovien. François Mitterrand se moquait du ministère des Finances en disant à chaque fois qu'il y a un problème de déficit, qu'il faut trouver une recette, il y a une grande réflexion et à la fin de la réflexion, c'est toujours la même proposition, il faut augmenter les taxes sur l'alcool, sur le tabac et sur l'essence. C'est un peu la même chose avec Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il y a un problème, eh bien on va faire une réforme de l'assurance chômage avec quand même deux chiffres qu'il faut garder, je crois, en tête. Le premier, c'est que maintenant, plus de la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés et que sur ceux qui sont indemnisés, plus de la moitié d'entre eux travaillent tous les mois. Le problème, c'est qu'entre cette réalité de la statistique et l'exemple de son beau-frère qui abuse du système, eh bien, c'est le beau-frère qui l'emporte dans l'imaginaire public. Et je termine par l'autre question qui est de savoir pour quelles raisons le gouvernement s'engage dans cette réforme-là, si on va au-delà de l'idée que c'est un gouvernement de droite qui veut taper sur les chômeurs. Je crois qu'il y a trois éléments. Une vision étatiste du travail. C'est un gouvernement, on dit souvent, c'est un gouvernement libéral, mais c'est un gouvernement libéral qui est aussi un gouvernement étatiste et pour lequel la vision du social, c'est pas les partenaires sociaux qui, avec l'idée de les cotisations sont du salaire différé. Tout ça, c'est l'État, et c'est l'État seul qui doit prendre les choses en main. Deuxième élément, une crainte aiguë pour le plein emploi. On entendait Gabriel Attal dire « c'est ça l'objectif », et c'est vrai que c'est sans doute l'élément sur lequel il y a la plus forte continuité dans la politique conduite par Emmanuel Macron depuis 2017. Il y a eu des progrès, il y a eu des progrès réels, et là, il y a un retournement de conjoncture, il y a la crainte que cet objectif s'éloigne, et donc tous les moyens sont bons à utiliser.
Une crainte aiguë de ne pas parvenir au plein emploi.
Bien sûr.
D'accord.
Et puis le dernier élément, c'est qu'il y a sur ce sujet-là une indifférence de l'opinion. L'idée qu'il y a trop d'assistanat reste une idée majoritaire, et y compris, et même surtout, l'idée que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. C'est une question que la Fondation Jaurès pose chaque année depuis 10 ans dans son baromètre. Ça fait, on est à 65% de Français qui répondent oui. Et donc, le gouvernement pense que il peut y aller et on voit comment la défiance finit par produire des effets dans les politiques publiques.
Natacha, l'idée que c'est par le plein emploi qu'on résorbera les déficits et que par conséquent il faut trouver toutes les situations, toutes les solutions pour parvenir au plein emploi, comment vous l'entendez ça ? C'est une colonne vertébrale idéologique, je reprends ma première question.
Alors, l'idée qu'il faille créer de la richesse pour sortir du déficit me semble une idée absolument fondamentale. Ce devrait être la base. Créer de la richesse. Est-ce que c'est en rabotant les droits des chômeurs qu'on crée de la richesse? Non, je ne pense pas. Après, quand on regarde, donc Gilles a dressé un tableau de la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017 sur cette question. En effet, il y a une continuité. En effet, il y a régulièrement des coups de rabot par-ci ou par-là. Je le rejoins sur un point. Ce qui me frappe systématiquement, c'est cette incapacité à faire confiance aux partenaires sociaux, à s'appuyer sur, en fait, tous les outils de la démocratie. On a là des mesures dont on peut comprendre la philosophie. Quand il s'était agi d'expliquer que on allait allonger de 4 à 6 mois la durée minimum de travail pour pouvoir être indemnisé, si vous interrogiez des restaurateurs, vous compreniez qu'il y avait un enjeu dans la mesure où ils étaient confrontés à certains salariés qui rechargeaient leur droit au chômage pour ensuite toucher. Ça se comprend. Le problème, c'est d'en faire une logique globale. Le problème, c'est de considérer que c'est en diminuant les droits et en détricotant petit à petit la protection sociale qu'on va régler un problème qui est un problème absolument massif, qui est celui d'un déficit chronique et donc d'une dette qui s'accroît. Or, le problème du déficit, il n'est pas dû à de trop grandes dépenses, en particulier les dépenses sociales, même si, quand on observe l'évolution de la dépense de l'État, bien entendu, ce sont les dépenses sociales qui ont augmenté et pas les dépenses régaliennes et pas les investissements, ce qui pose un problème. Mais quand on regarde depuis 2017, par exemple, l'évolution des finances publiques, on a aujourd'hui un déficit de 154 milliards. Le hiatus, l'argent qui manque, parce que les impôts ont été baissés, et de 21 milliards des impôts dont on peut se dire qu'ils ont été baissés pour pas forcément ceux qui en avaient le plus besoin, puisque si je regarde la façon dont ça se répartit, la baisse de 24 milliards est de 44% pour les 20% les plus riches, et 35 milliards de moins pour les entreprises également. Donc, vous avez, depuis 2017... une politique qui consiste à dire on va diminuer les recettes, on va les diminuer drastiquement. Ça peut se comprendre, c'est une politique de compétitivité. Est-ce que ça marche, cette politique de compétitivité? Est-ce qu'on a recréé de l'emploi? Est-ce qu'on a réindustrialisé réellement? En trompe-l'œil. Quelques réussites, mais en fait, l'obsession de la compétitivité dans un univers totalement dérégulé de mise en concurrence, ça ne marche pas. Et donc, ça aboutit à faire baisser systématiquement les droits des salariés, de façon d'ailleurs indifférenciée et en touchant des gens qui ont besoin de cet argent. Je pense notamment à ceux qui approchent de la retraite, c'est-à-dire les plus de 55 ans, qui voient leurs droits baisser.
Natacha a évoqué, il y a un instant, les baisses d'impôts, l'espèce de tabou d'augmenter les impôts qui a été balayé d'un revers de la main à nouveau par le Premier ministre Gabriel Attal aux 20h de TF1. Comment est-ce que vous l'entendez ça, Gilles? Est-ce que c'est une erreur de ne pas vouloir absolument toucher aux impôts?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là aussi, il y a une continuité et une cohérence dans la politique qui est conduite. Après, on peut l'approuver ou pas l'approuver, mais il y a ça depuis 2017. Et compte tenu de ce qui a été fait, je serais très surpris, parce que je vois que le débat commence à ressurgir à l'intérieur même de la majorité.
De l'augmentation d'impôts des plus riches.
Voilà. Je serais surpris qu'il se passe des choses significatives là-dessus, parce que c'est un élément identitaire de la politique du président de la République. Après, deuxième point très vite par rapport à ce que disait Natacha. Évidemment, peut-être pour compléter, l'idée n'est pas pour le gouvernement de raboter les droits des chômeurs pour créer de la richesse. L'idée, c'est que le raisonnement, en tout cas, c'est que il faut qu'il y ait plus d'emplois pour qu'il y ait plus de richesse, et il y aura plus d'emplois en réduisant cette durée parce que c'est une incitation à la reprise du travail, avec l'idée que les chômeurs recherche du travail davantage juste au moment où il rentre dans le chômage ou quand les droits se terminent, et bien donc plus on réduit cette période-là, plus la recherche sera active. C'est ça le raisonnement qui est derrière. Le problème, c'est que ce n'est pas corroboré par les études.
Et en revanche, la question est de savoir si ces gens sont au chômage parce qu'on manque de création de richesses, on manque d'entreprises en France. Quand on voit le chiffre des défaillances des PME, on se dit que c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer.
Le grand face-à-face, le duel.
2 avril 1974, les dossiers de l'écran sur Antenne 2 sont interrompus par un flash spécial présenté par Philippe Arouard.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignaloux, le médecin de M. Pompidou.
Mardi donc, ça fera 50 ans que Georges Pompidou est mort alors qu'il était à l'Élysée. Gilles, vous avez tenu à revenir sur cette information, sur cet anniversaire. Pourquoi ? Pourquoi c'est important pour vous ?
Alors, ce que je trouve intéressant, il y a une espèce de retour de mode autour de Georges Pompidou.
La clope, alors, la bagnole.
Évidemment. Alors, il y a la clope, il y a la bagnole. Il y a cette phrase qui est devenue un mantra et qui est maintenant la trace de Georges Pompidou, arrêter d'emmerder les Français. Je crois que son bilan est un peu plus vaste que ça. C'était la une du Figaro Magazine il y a quelques temps. Il y a un essai de David Lisnard, le maire de Cannes, président de l'AMF. Donc, il y a un petit retour de Georges Pompidou et je trouve que c'est toujours intéressant de revisiter, le cas échéant, de réévaluer le bilan d'un président de la République. On l'avait fait au moment de la mort de Valéry Giscard d'Estaing, avec, je crois, un bilan qui était réévalué à la hausse. On s'était aperçu de l'ampleur réformatrice, notamment de la première partie du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. D'une certaine manière, on avait revisité ça à la baisse, au moment du décès de Jacques Chirac, où on voyait que à la fin, ce qui restait de ce qu'il avait accompli comme président, il n'y avait pas grand-chose. Georges Pompidou, on se souvient assez peu de ce qu'il a fait comme président de la République. Et d'une certaine manière, on se souvient assez peu parce qu'il y a assez peu de choses à se souvenir. c'est cette phrase, je ne sais plus de quelle est. Il ne disait rien et il n'en pensait pas plus.
C'est dur, ça.
C'est très dur. Donc, il n'a pas fait grand-chose. Il y avait une forme de conservatisme. Sur un mandat qui a été un mandat court, quand on regarde, il y a la transformation du SMIG en SMIC. La création, pour la première fois, du ministère de l'Environnement. 2-3 choses. Il y a, avec un Georges Pompidou Premier ministre, parce que ça a été le plus long mandat à Matignon avant qu'il devienne président de la République, il y avait une politique industrielle, etc.
Mais il y a quand même l'Europe. Alors, c'est lui la relance, c'est lui l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe communautaire.
Vous avez raison, il y a une réintégration ou une banalisation de la position européenne de la France. Bon, mais une fois qu'on dit ça, s'il n'y a pas grand-chose dans le bilan politique, je crois qu'il y a 2 choses qui sont intéressantes. La première chose, c'est un symptôme de cette idée, de cette nostalgie que c'était mieux avant. Et le avant, cette parenthèse enchantée, que je cite la formule d'Éric Neuhoff parlant des années Pompidou, alors je ne sais pas si c'est la clope et la bagnole, mais cette idée que c'était mieux avant, on peut douter du fait que les Français seraient vraiment réjouis de revivre dans la France des années Pompidou.
Qui est la France d'avant IVG, par exemple.
D'avant beaucoup, beaucoup de choses. La France a beaucoup changé, et les Français aussi. Mais je crois que ça, c'est intéressant. Et puis, le deuxième chose qui m'intéresse, c'est la personnalité de Georges Pompidou. Et s'il y a une nostalgie Pompidou, ça peut tenir aussi à la complexité, à la richesse de cette personnalité. Un homme à la fois de grande culture et d'ancrage, de modernité et de conservatisme. Et je vous lis juste un tout petit extrait de ces lettres, notes et portraits qui courent sur 60 ans, qui sont absolument formidables, qui ont été publiés il y a quelques années chez Robert Laffont, où à la fin de sa vie, à la fin de son mandat, il sait qu'il est malade, il ne sait pas exactement ce qu'il a, mais il sait qu'il est malade, le portrait de Jacques Chaban-Delmas, qui a été son premier ministre. Jacques Chaban-Delmas se veut jeune, beau, séduisant et sportif. Il refuse de vieillir, se livre pour cela à son sport favori, le tennis, et assure la relève en se mettant au golf. Il aime les femmes, toujours passionné, seul changeant l'objet de la passion. Il travaille peu, ne lit pas de papier, en écrit moins encore, préférant discuter avec ses collaborateurs et s'en remet essentiellement à eux qu'il choisit bien, pour ce qui est des affaires publiques, s'entend.
Une plume acérée.
Plume magnifique.
Georges Pompidou, c'est aussi un modèle de méritocratie française. C'est un fils d'enseignant, ruraux, qui devient lui-même prof, puis banquier, puis Premier ministre, c'est quand même pas rien, puis président entre 1969 et 1974. Natacha.
Oui, et ça joue en effet dans la nostalgie que l'on peut avoir vis-à-vis de ce personnage, de même d'ailleurs que son immense culture. Évidemment, on peut citer son anthologie de la poésie française, oui, qui reste absolument admirable. Et on peut citer également, et c'est Alain Baraton qui un jour me l'a fait connaître, il y a de cela plus de 20 ans, sur les ondes de France Inter, la lettre de Georges Pompidou à Jacques Chaban-Delmas sur les platanes au bord des routes, qui est un chef-d'œuvre d'ironie sur le peu de cas que l'administration fait des demandes du président de la République, puisqu'il réclamait qu'on ne coupa pas les platanes au bord des routes.
Un parfait subjonctif en hommage au lettré qu'était Georges Pompidou.
Et il expliquait que la France devait rester belle parce qu'on devait pouvoir s'y promener en voiture. Mais à côté de ça, en effet, il y a quelque chose de très paradoxal dans cette espèce de nostalgie qui est en fait une nostalgie d'un moment où la France allait bien, où l'on est à la fois, c'est vrai, entre le conservatisme, la tradition et une modernité qui n'est pas encore une modernité agressive.
Ouais, destructrice, ouais.
Même si, en fait, si l'on y repense, Georges Pompidou avait pour aspiration de mettre des autoroutes au milieu de toutes les villes et que sa vision de la modernité n'était pas justement extrêmement novatrice et visionnaire. Il était dans une modernité totalement agressive, faite de bagnoles, de formes dont on peut considérer aujourd'hui qu'elles ne respectaient pas exactement la douceur de vivre à laquelle aspirent aujourd'hui ceux qui ont conscience des questions écologiques. Bref, je pense qu'il y a un contresens. J'ajouterais un point. La modernité à l'anglo-saxonne, à l'américaine, c'est Giscard qui s'est appuyé dessus. Celle de Pompidou était beaucoup plus ancrée dans la mémoire française. Pour autant, elle n'est pas plus intelligente. Et je pense que Georges Pompidou n'a fait que adoucir et donc atténuer et affadir ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant dans le gaullisme. Et en particulier sur les questions de planification, de respect de l'indépendance de la France, la décision de faire rentrer l'Angleterre dans la Grande-Bretagne, dans l'Union européenne, n'étant qu'un des éléments, certes anecdotiques, mais tout à fait intéressants, de cette erreur de perspective.
Qu'était la décision des Français, puisque c'est par référendum proposé par Georges Pompidou, mais décision
nous
des Français.
Bien d'accord.
En tout cas, la clope, la bagnole, ça m'a donné envie de revoir quelques films de Claude Sautet.
Le grand face-à-face, le duel.
Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive.
C'était Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais, élu au premier tour cette semaine et qui a tenu à rassurer la communauté internationale. Natacha, c'était important de rassurer la communauté internationale et de nous rassurer, nous les Français ?
Disons que c'était important d'envoyer un message au monde parce que cette élection en elle-même est essentielle pour plusieurs raisons. Première raison, les institutions sénégalaises ont tenu. Et
oui,
il est fondamental
gagné,
de le dire, ce n'était pas gagné. Et ça prouve que sur un continent fortement déstabilisé par différents coups d'État, différents putschs, eh bien il y a un pays qui réussit une transition démocratique du pouvoir qui semble profondément appréciable. Le rôle du Conseil constitutionnel a été fondamental là-dedans. Après, sur la question de la ligne que va suivre Bassirou Diomaye Faye, bien entendu que ce ne sera pas la ligne pro-occidentale, libérale de son prédécesseur, bien entendu. En revanche, ce qui va être extrêmement important à suivre va être la question de l'abandon ou pas du franc CFA. Parce qu'il y a là un enjeu, je pense, qui n'est pas seulement symbolique, qui peut l'être, hein, mais ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina n'ont osé abandonner le franc CFA. Ils veulent juste quitter la CEDEAO. Or, le franc CFA est une monnaie qui, pour certains, et dans l'idée panafricaniste, est une monnaie coloniale. Le problème que pose le franc CFA, c'est surtout que c'est une monnaie surévaluée. C'est surtout que c'est une monnaie qui est arrimée à l'euro lui-même, surévaluée pour certaines économies européennes. Mais alors, le franc CFA, donc, ne permet pas un développement économique indépendant des pays d'Afrique. Il va falloir, à un moment donné, régler cette question. Elle a été, en partie, atténuée par la réforme de 2020 voulue par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. On peut noter qu'il y a eu des améliorations extrêmement importantes. Pour autant, je pense que le sujet va devoir être suivi.
Gilles, un mot là-dessus. Est-ce que c'est une... Alors, j'aime pas dire ça parce que, franchement, le Sénégal n'est évidemment pas ni une colonie, ni même une zone d'influence particulière. Enfin, ne devrait pas être une zone d'influence particulière de la France, même si elle l'est en particulier. Mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Paris, cette élection?
Bon, d'abord, c'est une, je trouve, une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. Ouais. Il faut quand même commencer par ça.
Oui, parce qu'on a fait des émissions ici où on s'inquiétait du sort de la démocratie, ce pays qui est le modèle démocratique de l'Afrique de l'Ouest.
Voilà, là, on en avait parlé il y a, je crois, 2 mois, au moment où Macky Sall avait reporté les élections au mois de décembre. La démocratie a chancelé, il y a eu ces hésitations sur la date de l'élection. Ça a chancelé avec une campagne qui a quand même été une campagne étrange, qui a été extrêmement courte et durant laquelle le principal candidat d'opposition qui a été élu président de la République n'est sorti de prison qu'à moins de 2 semaines du scrutin. Mais ça a tenu parce qu'il y a eu une pression politique interne qui a été très forte, parce qu'il y a eu une pression internationale aussi, et parce que le Conseil constitutionnel sénégalais a joué un rôle absolument majeur pour refuser la prorogation du mandat de Macky Sall, pour refuser la révision de la liste des candidats. Et donc, ces élections se sont tenues, elles n'ont pas été contestées, l'alternance a été acceptée. Il y avait une exception sénégalaise, il y a encore une exception sénégalaise, et dans la région, c'est quand même notable de le souligner. Deuxième point, sur ces conséquences, on sent que c'est un vote de rupture. C'est un vote de rupture par rapport aux années écoulées. On le voit dans le positionnement politique du nouveau président, cette formule du pan-africanisme de gauche, ce retour à la souveraineté nationale. On le voit dans le programme économique, Natacha a parlé de la perspective de l'abandon du franc CFA, mais on le voit aussi dans la suspension des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, ou, sujet très sensible, dans la renégociation des accords miniers, gaziers et pétroliers. En réalité, on ouvre une période d'incertitude avec cette alternance, avec un président qui a peu d'expérience politique, qui est peu connu, et donc on ne sait pas exactement où va aller le Sénégal.
Période d'incertitude, dites-vous, Gilles, notamment que le Sénégal suive les exemples du Mali, du Niger, du Burkina, à savoir un discours anti-occidental nourri par la Russie. Voilà qui introduit parfaitement notre invité. Place au débat du Grand Face à Face.